Voilà cette troisième réunion a pour sujet le rôle du Saint-Esprit dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Nous lirons donc dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, le verset 14. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu sans tache, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son esprit qui habite en vous. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. 1 Pierre 3, 18. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit. Et enfin, Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 2. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 2. Jusqu'au jour où il fut élevé au ciel, après avoir donné par l'Esprit Saint des ordres aux apôtres, qu'il avait choisi jusque-là.
Nous ressentons, je crois, que les versets proposés pour cette dernière réunion ne sont pas faciles, mais très, très profonds, qui touchent sur la mort et la résurrection du Seigneur. Mais peut-être, juste pour commencer, une pensée sur Hébreux 9, verset 14. Nous avons dans ce chapitre une comparaison entre l'Ancien et le Nouveau. Par exemple, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Déjà à la fin du chapitre 8 et puis chapitre 9 au début, la première donc avait aussi des ordonnances terrestres. Et on a toujours cette comparaison. Alors, la première alliance, avec ses ordonnances, avec un culte terrestre, avec un sanctuaire terrestre, et des sacrifices qui étaient des ombres, des types du vrai sacrifice qui allait venir. Et puis, sur l'autre côté, nous avons Christ, son sacrifice, ce qui a été effectué quelque chose une fois pour toutes. Et nous voyons cela aussi dans le verset 14, parce que il commence avec les mots « combien plus ». Alors, on a encore une fois cette comparaison. Cela commence au verset 13, « car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse avec laquelle on fait aspersion sur ceux qui sont souillés, sanctifie pour la pureté de la chair. » Alors, on a les ordonnances de l'Ancien Testament, par exemple, un nombre 19, la génisse rousse, l'eau de purification qui devait être appliquée quand il y avait une souillure extérieure. Et le texte dit que dans les yeux de Dieu, cela avait un effet. On était obligé d'appliquer cette eau de purification, bien sûr en vue du sacrifice qui allait venir. Mais puis il dit, combien plus le sang du Christ. Et là, on aborde sur le sacrifice du Seigneur. Et là, on trouve cette expression, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu. Normalement, nous pensons, nous voyons le Seigneur dans la victime, dans l'animal qui est sacrifié. Ici, le Seigneur est celui qui s'offre lui-même. Et ce qui nous intéresse spécialement aujourd'hui, c'est cette expression « par l'Esprit éternel ». Le Saint-Esprit est une personne, et il est une personne divine. Cette expression, je crois que c'est la seule fois qu'on trouve ce nom, Esprit éternel, sauf erreur, démontre. C'est un des versets qui démontre sa divinité, l'Esprit éternel. Mais la question qui se pose pour nous maintenant, c'est qu'est-ce que ça veut dire que le Seigneur s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel? Pour faire juste une proposition, ce qui était important pour Dieu dans le sacrifice du Seigneur, c'était, bon, tout d'abord sa personne, c'était deuxièmement ce qu'il a fait et ce qui a été fait, qu'il a porté le jugement et il a enduré la mort. Mais ce qui est aussi important, c'est les émotions de son cœur et de son âme qu'il a eues quand il s'est sacrifié à Dieu. Je dirais que chaque pensée, chaque émotion qu'il a eue dans son être était en plein accord avec Dieu et pour la joie de Dieu. Je donne juste un exemple. Dans le psaume 22, le Seigneur exclame « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il exprime qu'il a crié la nuit et le jour et il n'y avait pas de réponse, mais ce qu'il dit après montre qu'il justifie Dieu. Alors, c'est les sentiments de son cœur dans cette détresse étaient absolument pour la gloire de Dieu. Par exemple, il dit dans le verset 3, « Et toi, tu es saint. » Alors, il justifie Dieu. Il n'y a aucun trace, aucun signe, aucune signe, aucune trace d'opposition, mais une soumission complète envers son Dieu. Et puis il dit, un peu plus tard, dans le psaume 22, verset 10, « C'est à toi que je fus remis dès la matrice, tu es mon Dieu dès le ventre de ma mère. » Alors là, il est les mains et les pieds percés sur la croix, abandonné par Dieu, et il exprime que néanmoins, il met toute sa confiance en son Dieu. Il justifie Dieu même dans le jugement qu'il supporte. Alors peut-être c'est un aspect, les frères ajouteront sans doute plus, de cette expression, il s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel.
Je crois qu'il est effectivement difficile de commenter de tels passages. Remarquez que ici, comme Michel l'a souligné d'ailleurs, c'est que il y a beaucoup dans l'Ancien Testament d'images, de types du Seigneur, et parfois effectivement on retrouve dans la personne du Seigneur plusieurs types simultanément. Et là effectivement c'est étonnant, mais c'est merveilleux. Il est à la fois l'offrande et le sacrificateur, la victime et le sacrificateur. Un peu comme dans les paraboles des évangiles où on a parabole du semeur où le Seigneur est le semeur, mais on voit aussi ailleurs en Jean 12 qu'il est aussi le grain de blé qui est semé en terre, qui meurt, qui porte beaucoup de fruits. Donc plusieurs images sont nécessaires pour nous parler de lui, et lui est l'antitype en quelque sorte de beaucoup d'images de l'Ancien Testament. Donc ça, c'est un premier point qui a déjà été souligné, c'est il s'est offert lui-même, sans tache. Bon, on comprend, c'est la référence à cet agneau de Dieu, sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, qui devait être offert et qui s'est offert lui-même dans le cas du Seigneur, à Dieu. Et pourquoi, effectivement, par l'Esprit éternel? Bien, c'est dans cette offrande de lui-même à Dieu en sacrifice expiatoire, effectivement, pour le péché, entre autres, mais aussi comme holocauste, ici c'est plutôt le côté de l'holocauste d'ailleurs, qui est peut-être le plus en vue. Et il y avait cette offrande volontaire, donc comme victime et comme propitiation, et puis aussi ça inclut le sacrifice de sa vie. C'est une offrande sanglante qu'il a offert. Pas juste, c'est pas offert simplement comme l'offrande de gâteau en quelque sorte, mais là c'est une référence à un sacrifice sanglant, au fait qu'il a laissé sa vie. Et je pense, voilà, un commentaire peut-être que je vous soumets, on a déjà remarqué qu'on voit souvent les trois personnes de la divinité à l'œuvre dans les moments importants. Bien, il me semble que quand le Seigneur offre sa vie, on voit aussi cela. Il le fait de lui-même. Moi, je laisse ma vie. Personne ne me l'ôte. Je laisse ma vie de moi-même. Mais en même temps, il dit, j'ai reçu ce commandement de mon Père. Donc, il le fait en obéissant à un commandement du Père. Et puis là, ce verset nous dit, il l'a fait par l'Esprit éternel.
Pour continuer un peu ce que Michel a dit, je trouve qu'on peut même trouver ça dans ce verset 14, le dit, il est parlé du sang de Christ qui s'est offert lui-même. Par l'Esprit éternel, et l'objet c'est à Dieu. Il s'est offert à Dieu. Tous les trois, on les trouve dans le verset 14. Dans l'épître aux Hébreux, il y a beaucoup de choses meilleures qui nous sont présentées. Et Michel a dit que c'est ce qu'il se montre ici, c'est les choses anciennes, et c'est ce qu'il est maintenant devenu par l'offrande, le sang de Jésus-Christ. Et il est l'Esprit éternel qui est mentionné ici. Et c'est bien lié, si on peut dire, c'est ce qu'on peut lire un peu plus avant, dans le verset 12 du même chapitre. Et non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. Rédemption. Dans l'Ancien Testament, n'était pas éternel. Le sacrificateur entrait chaque an dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, avec du sang. Mais Jésus, c'est une rédemption éternelle. Et plus tard, dans le verset 15, après, il a présenté l'expression de l'Esprit éternel. Et c'est pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, en sorte que la mort étant intervenue pour la rançon des transgressions qui étaient sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui a été promis. Aussi, le futur, c'est ce qu'on a hérité. On a entendu du sceau qui est mis sur nous, qui nous est donné par le Saint-Esprit, ici c'est l'héritage éternel. Ça c'est quelque chose qui est typique aussi pour l'Épître aux Hébreux. C'est les choses meilleures, les choses éternelles.
Oui, cette expression par l'Esprit éternel est particulièrement vaste, probablement, une pensée qui dépasse ce que nous pouvons vraiment saisir. Mais ça me fait penser d'une part à ce que nous avons lu au tout début de notre réunion dans la première épître de Pierre. L'Esprit de Christ rendait par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Et il y a, si on peut dire, une pleine identité ou une pleine harmonie entre l'œuvre du Christ, l'offrande de Christ et le témoignage que rendait le Saint-Esprit. Au moment où le Seigneur se livre lui-même, il accomplit pleinement tout ce qu'était le témoignage de l'Esprit-Saint à travers les prophètes. Et ensuite, si on peut dire, sur la base de son œuvre, au chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, nous lisons au verset 10, « C'est par cette volonté, c'est-à-dire la volonté de Dieu, que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. » Et nous sautons au verset 14, « Car par une seule offrande, il a rendu parfaits à perpétuité ceux qui sont sanctifiés, et l'Esprit-Saint aussi nous en rend témoignage. » Et là, on peut dire que l'Esprit va confirmer la valeur de ce sacrifice, de cette offrande du Seigneur Jésus. Et on pourrait presque dire s'associer à cette œuvre de la rédemption. Et on voit en Hébreux 10 d'ailleurs la volonté de Dieu, le sacrifice, l'offrande de Jésus-Christ, le témoignage de l'Esprit-Saint, encore une fois, les trois personnes divines qui sont engagées dans une même œuvre parfaite.
On a rappelé tout à l'heure que certainement que cette expression, elle fait allusion à l'Holocauste de Lévitique chapitre 1. Christ qui s'est offert lui-même à Dieu sans tâche. Et peut-être que c'est bon pour nous de nous rappeler que cet aspect du sacrifice du Seigneur, l'Holocauste, celui qui s'est offert lui-même à Dieu, c'est, si on peut dire ainsi, l'aspect le plus précieux du sacrifice du Seigneur. Et le livre du Lévitique commence par cet aspect-là. Et voilà, ça ne veut pas dire que les autres aspects ne sont pas précieux et qu'il faut ne pas en parler. Non. Mais rappelons-nous, et peut-être aussi, soyons exercés aussi pour le culte, mais que c'est cet aspect-là qui est le plus précieux aux yeux de Dieu, et ne le négligeons pas, et au contraire, occupons-nous-en le plus possible. C'est l'aspect le plus précieux du sacrifice du Seigneur. Et peut-être aussi une remarque par l'Esprit éternel, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que dans ce don de lui-même, il était nécessaire qu'il soit à la fois homme, à la fois Dieu. Et en tant qu'homme, il fallait qu'il soit homme pour s'offrir et pour mourir. Mais s'il n'avait pas été Dieu, il n'aurait pas, si on ose parler comme ça, il n'aurait pas pu supporter tout cela, endurer tout cela. Mais s'il n'avait pas été homme, il n'aurait pas ressenti tout cela aussi de la même manière. Et donc il y a quelque chose qui est insondable, qu'on ne veut pas, dans lequel on ne veut pas entrer, disséquer. Mais on comprend que pour accomplir cette œuvre, il fallait qu'il soit à la fois homme, à la fois Dieu.
On vient de parler effectivement de cette œuvre. On a vu que pour entrer dans son service, le Seigneur a été oint de l'Esprit. Quand il allait de lieu en lieu et qu'il faisait du bien, quand il chassait les démons, c'était par l'Esprit. Peut-on être étonné que ce soit par l'Esprit qui s'engage dans cette œuvre et dans ce service pour lequel il était venu? Et il fallait effectivement comme homme qu'il soit conduit et amené là par l'Esprit Saint. Ça convenait par rapport à cette humanité qu'il avait revêtue. Et combien on ne peut pas être étonné, justement. L'Esprit est resté avec lui jusqu'à la fin de sa vie. Quand il souffrait comme ça, effectivement, c'était l'Esprit Saint qui était là avec lui. Il n'y avait aucune divergence par rapport à cela, mais il accomplissait l'œuvre, finalement, que le Père lui avait donné à faire par rapport, effectivement, à tout ce qu'il avait fait déjà dans son, comment il avait délivré ce que le diable avait asservi à sa puissance. Mais là, effectivement, cette œuvre, c'était pour délivrer les hommes de la colère de Dieu. Et pour cela, il s'offrait en Dieu par l'Esprit éternel. Et effectivement, comme on l'a souligné, c'est l'Esprit éternel. Et on voit effectivement là le contraste entre les choses temporaires dans cet épître et les choses éternelles. Et effectivement, ça nous montre aussi la portée éternelle de ce que fait le Seigneur dans la puissance de l'Esprit.
Peut-être avancer un peu et considérer les passages suivants, même si on peut aussi encore revenir sur cette expression merveilleuse d'Hébreux 9, mais dans laquelle on a vu donc le mention, en tout cas, son rôle n'est pas détaillé, mais la mention du Saint-Esprit, l'Esprit éternel dans cette œuvre expiatoire du Seigneur, cette offrande de lui-même, à la fois offrande expiatoire pour le péché, mais à la fois holocauste à Dieu, pour Dieu, et qui inclut, donc, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, sa mort. Donc, ça inclut aussi dans cette mort qu'il a accomplie à Jérusalem, comme il est dit, le rôle du Saint-Esprit. Puis alors, les passages suivants de Romains 8, peut-être relire, mais surtout de 1 Pierre 3, mentionne alors l'action et le rôle du Saint-Esprit dans sa résurrection. Alors Romains 8, verset 11, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son esprit qui habite en vous. » Je pense que s'il y avait seulement ce passage, on ne pourrait pas vraiment dire qu'il s'agit de l'action du Saint-Esprit dans la résurrection de Christ. Parce que là, il est question de notre résurrection et qui est attribuée au Père. Celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi, à cause de son esprit qui habite en vous, donc l'esprit de Dieu. Donc c'est notre résurrection, notre vivification plus précisément ici de nos corps mortels est attribuée au Père, celui qui a aussi ressuscité donc Jésus, ça c'est bien rappelé, Père, nous ressuscitera aussi. Et il y a cette mention effectivement intéressante, mais pas tout à fait en rapport avec la personne de Christ, à cause de son esprit qui habite en vous. Et c'est, je pense, une illustration de ce caractère du Saint-Esprit que nous avons reçu comme sceau. Le sceau, donc, c'est la marque de propriété, et c'est aussi ce qui, ce passage nous le montre, sera le signe, cette marque de propriété qui sera le critère pour que soient transmués ceux qui sont encore vivants et qui ont l'esprit habitant en eux, c'est dit un peu plus haut. Et celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son esprit qui habite en vous. C'est pas vraiment la résurrection, là c'est plutôt ceux qui seront vivants au retour de Christ seront transmués, leurs corps seront vivifiés, là c'est pas vraiment la résurrection, seront transmués en un corps glorieux à cause de l'Esprit qui habite en nous. Ça sera le critère, en quelque sorte, de ceux qui seront transmués par rapport à ceux qui ne le seront pas. Tous ceux qui auront ce sceau de Dieu sur eux, qui est en fait l'habitation de l'Esprit en eux, seront transmués, et les autres non. Et par contre, pour les morts, c'est autre chose, c'est ceux qui auront cru pendant leur vie, qui auront au Seigneur Jésus, même dans l'Ancien Testament, seront ressuscités, et pas les autres. Mais donc c'est ce côté de la marque qui est sur nous, ce sceau, qui sera distinctif pour la transmutation de nos corps, pour ceux qui seront vivants à ce moment-là. Mais je pense que c'est intéressant de rapprocher ce passage de Romains 8, et je pense que c'est tout l'intérêt de cette citation, de 1 Pierre 3, qui nous avons lu aussi, où là, il est bien question du Seigneur. Pas être trop long, excusez-moi. Je relis quand même ce verset. Oui, 18. Donc, il est bien question de Christ, au début du verset 18. « Christ a souffert une fois pour les péchés, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit. » Donc là, dans le cas de Christ, c'est bien sa résurrection, et qui est bien attribuée au Saint-Esprit. Donc, il est... Là aussi, il est à la fois, il a été ressuscité par la gloire du Père, il a aussi été manifesté fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, résurrection d'autres personnes, mais aussi de la sienne propre, et puis là, il est vivifié par l'Esprit. On peut dire que c'est aussi de nouveau les trois personnes de la Déité qui sont à l'œuvre dans cette résurrection, vivifié par l'Esprit. Mais il est en cela prémisse de la résurrection de tous les croyants. Et prémisse, Christ ressuscite, est déjà ressuscité, le seul à avoir vraiment été ressuscité dans le sens plein du terme, et avoir ensuite revêtu un corps glorieux. Et ceux qui sont du Christ à sa venue. C'est la garantie aussi, ces prémices sont aussi la garantie de notre propre résurrection qui s'opérera aussi par l'Esprit, mais dont Christ a montré en quelque sorte le chemin.
Vivifié par l'Esprit. On a vu le rôle du Saint-Esprit dans la naissance du Seigneur Jésus. Quand il est venu dans cette création. Pas une créature, encore une fois, comme on l'a déjà dit, mais il a pris place dans le temps, dans l'espace. Il a pris place dans la création de Dieu, dans la première création. Est-ce qu'ici, on ne voit pas le rôle de l'Esprit pour l'introduire dans la nouvelle création? C'est une question. Il me semble que là aussi, on voit finalement, il est parlé dans la parole d'une nouvelle création dans laquelle nous sommes entrés, d'un point de vue de nos âmes, mais est-ce que ce n'est pas aussi ici le fait qu'il est introduit aussi par l'Esprit dans la nouvelle création? Il est dit ici « vivifié ». Il est encore question de vie. Il a été amené à la vie naturelle de l'homme à part le péché dans les évangiles. Et ici, est-ce que cette vivification n'est pas en rapport avec ce sujet de la nouvelle création?
Je ne prétends pas répondre absolument à la question, mais c'est quand même cette pensée, je pense, est confirmée par ce qu'on trouve dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, où on l'a entendu ou lu dans différents commentaires, où on a déjà mentionné ce verset en disant qu'il était, quand il est devenu un homme, il est devenu le premier-né de toute la création, non pas au sens de l'antériorité, mais de la prééminence, parce que premier-né, ça souligne aussi, ça veut dire aussi, c'est un titre, comme on l'a dit d'ailleurs, mais ça, on peut faire le lien avec prééminence par rapport à tous les hommes. Et on a dit, cela, c'est sa prééminence dans la première création, ce titre qui lui est donné là. Et puis, tout de suite après, verset 18, il est chef du corps de l'assemblée, lui, qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, il tienne, lui, la première place. Et on a souvent dit, ce premier-né d'entre les morts, c'est de nouveau la prééminence. Là, c'est aussi l'antériorité, mais c'est surtout la prééminence dans la nouvelle création, qui date effectivement de ce moment où il est sorti de la mort, ressuscité d'entre les morts, et il prend bien sûr dans cette nouvelle création la première place. Et d'ailleurs c'est ce qui est dit, afin qu'en toute chose il tienne lui la première place, il semble qu'on peut voir dans ce toute chose, dans la première création et dans la nouvelle création.
On pourrait peut-être rajouter le verset qui parle de la nouvelle création en 2 Corinthiens 5. Le verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les vieilles choses sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Alors, dans ce sens, nous faisons déjà partie de la nouvelle création. Comme notre frère vient de dire, le début de la nouvelle création, c'est la résurrection de Christ. Je pense toujours à Jean 20. Comme matin de la nouvelle création. Alors, souvent, quand nous parlons de la nouvelle création, nous pensons à Apocalypse 21, il y a une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et c'est vrai que là, c'est la nouvelle création, un accomplissement. Mais en tant que croyants, nous anticipons déjà, nous en font partie déjà aujourd'hui. Alors, dans Romains 8, si je comprends bien, le verset 11 parle, comme les frères ont expliqué, du Saint-Esprit comme garantie, pour ainsi dire. Alors, il y a une garantie que nos corps seront vivifiés. Et d'ailleurs, le nom du Saint-Esprit, je crois, c'est aussi unique hein, ici. L'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus. Alors, c'est l'Esprit de quelqu'un dont c'est le caractère, c'est quelqu'un qui ressuscite, qui enlève de la mort. Et si cet esprit est en nous, c'est la garantie la plus grande que nos corps ne peuvent pas entrer dans la mort et être laissés dans la mort. Peut-être on peut même l'appliquer aux deux groupes, ceux qui sont changés, vivants lors de l'enlèvement, dans ce sens, leur cœur mortel est vivifié et transformé. Cette transformation, c'est la vivification dans ce sens, dans ce cas. Et peut-être aussi l'autre groupe, disons les croyants qui sont entrés, qui sont passés par la mort, leurs cœurs aussi seront vivifiés pour être aussi avec le Seigneur. Alors, dans les deux cas, ce que nous lisons ici, c'est futur encore, c'est dans l'avenir. C'est quelque chose que nous n'avons pas encore. Nous avons encore le corps mortel dans lequel le péché habite encore, mais le moment arrivera où nous sommes affranchis complètement. Déjà aujourd'hui, nous sommes affranchis de la puissance du péché, mais pas encore du péché. Le péché est encore là. Mais à ce moment-là, le moment où les corps sont vivifiés, c'est l'affranchissement complet et final. Affranchi même de la présence du péché avec un corps glorieux pour être, quelle est l'expression, sans... Je le lis, Philippiens 3, 21. La conformité, voilà. Ouais. Alors, ce sera le cas à ce moment-là. Notre Sauveur qui transformera le corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire.
Et le verset de Acte 1, verset 2, où on voit le Seigneur ressuscité, agir encore par l'Esprit Saint, si on le relie à ce qu'on vient de dire, est-ce que c'est pas aussi cette pour nous cette anticipation que dans cet état de la résurrection, de la gloire dont on a parlé, eh bien le Saint-Esprit agira encore en puissance en nous, mais pour non plus pour nous contrôler ou dans le sens de restreindre les activités de la chair, mais il pourra agir pleinement pour nous faire entrer et nous faire jouir des bénédictions qu'il y aura dans la présence du Seigneur dans la gloire. C'est l'Esprit éternel. En Jean 14, il est dit que le Seigneur dit « Il sera avec vous éternellement » et dans la gloire, il sera encore avec nous et il nous conduira et nous fera jouir de toutes les bénédictions de la présence du Seigneur et il n'y aura plus rien pour nous les entraver, pour nous en empêcher d'en jouir, mais on pourra en jouir pleinement.
À propos de Acte 1, verset 2, je fais juste remarquer que, bien sûr, il y a un choix qui a été fait par le traducteur de placer par l'Esprit Saint en rapport avec le fait de donner des ordres aux apôtres, et c'est certainement juste. Et je fais remarquer qu'on pourrait aussi le mettre avant, un peu plus tôt, et de dire jusqu'au jour où il fut élevé au ciel par l'Esprit Saint, après avoir donné des ordres aux apôtres. Je pense que dans l'original, les deux peuvent se justifier. Et donc c'est quand même une allusion au fait que même son élévation dans la gloire, c'était aussi par l'Esprit.
Je vais mentionner encore un point qui n'est pas dans le programme, mais il me semble que ça correspond quand même avec l'esprit du programme, c'est que justement après l'élévation dans la gloire du Seigneur, il me semble que Acte 2, verset 33, nous reparle du Seigneur Jésus comme homme glorifié et en rapport aussi avec le Saint-Esprit. Et là, il est dit, Acte 2, 33, c'est un verset aussi qui nous étonne dans un sens. Il est dit, ayant été exalté par la droite de Dieu et ayant reçu de la part du Père l'Esprit Saint promis, il a répandu ce que vous voyez et entendez. Il me semble qu'on peut dire que le Seigneur Jésus a reçu l'Esprit Saint une nouvelle fois en tant qu'homme glorifié. Il avait reçu sur la terre en tant qu'homme venu sur cette terre dans le monde. Il me semble qu'on peut dire, d'après Acte 2, 33, qu'il a reçu de nouveau le Saint-Esprit comme homme glorifié. Et ce qui est touchant, c'est qu'il est dit, il a reçu et il a répandu ce que vous voyez et entendez. C'est-à-dire ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Donc il a reçu et il a répandu. Et ça me fait penser à cette expression qu'on trouve à la fin d'Ésaïe 53, quand il est dit du Seigneur, il partagera le butin avec les forts. Dans ce sens que le butin, après son œuvre merveilleuse, c'est ce qu'on voit là, Acte 2, 33 en particulier, il reçoit le Saint-Esprit comme homme glorifié et il ne le garde pas pour lui-même, il le partage avec les forts. Il le donne à ses croyants, à ceux qui croient en lui et qui sont sur la terre. Et bien sûr, c'est un autre sujet, c'est le sujet de l'assemblée, c'est le sujet de l'habitation du Saint-Esprit en nous. Mais n'est-ce pas touchant de voir que ce que le Seigneur a reçu dans la gloire, il le répand, il le partage encore.
J'aimerais bien dire quelque chose par rapport à Romains 8, hein. Mais avant, j'aimerais lire en Genèse 2, verset 7,
Et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devient une âme vivante. Et maintenant, nous allons en Jean 20. Jean 20, versets 22 et 23. Et ayant dit cela, il souffla en eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. » Et maintenant, on va relire Romains 8. Verset 11, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts vivifiera vos corps mortels aussi à cause de son Esprit qui habite en vous. » Nous voyons ici un côté du Saint-Esprit que le monde ne connaît pas, que le monde ne reçoit pas, mais que nous, les croyants, ont une sécurité en plus, parce que l'Esprit Saint a remis le Seigneur Jésus en vie, et cet Esprit habite aussi dans les chrétiens, dans celui qui a donné sa vie au Seigneur Jésus, dans celui qui est venu avec ses péchés devant le Seigneur. Et je pense, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais ce verset 11 me touche beaucoup et me donne beaucoup de valeur sur cette certitude que l'Esprit qui habite dans notre cœur est par cet Esprit que nous allons vivre aussi par après.
C'est intéressant, ce parallèle. Peut-être on pourrait dire en Genèse 2, Dieu souffle dans l'homme et l'homme devient une âme immortelle. Alors, qui vit éternellement, qui existe éternellement, s'il soit sauvé ou non. Dans Jean 20, ça va encore beaucoup plus loin, parce que là, le Seigneur souffle dans les disciples et ils reçoivent l'Esprit, comme il dit, mais c'est pour dire la plénitude, peut-être la force et la plénitude de cette nouvelle vie, cette vie éternelle, ce qui est appelé la vie en abondance. Jean 10, verset 10. Parce que la vie éternelle a à faire avec notre relation, la jouissance de notre relation avec des personnes divines, le Père et le Fils. Et c'est justement l'Esprit que le Seigneur, en résurrection, a donné comme force qui nous donne la capacité de nous réjouir de cette vie éternelle, d'avoir cette vie en plénitude, en abondance. Mais en Romains 8, c'est encore plus loin, parce que là, on a l'Esprit en tant que personne qui habite en nous. Ce qui n'était pas encore le cas en Jean 20, mais ils reçoivent déjà Saint-Esprit, hein, sans article, cette plénitude de vie. Mais lors du jour de Pentecôte, l'Esprit vit, habite dans les croyants, et dans l'Assemblée d'ailleurs, en tant que personne. Et comme ça, il est là, cette garantie de notre résurrection, ou vivification plutôt. Mais j'avais encore une question. Le frère Luc a dit, il a encouragé les jeunes frères à quand même oser. Alors, je vais oser. Si j'ai le droit de m'inclure. En 1 Pierre, 3. Et c'est une vraie question. Dans ce verset 19, il parle de la résurrection du Seigneur. Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, c'est touchant, afin qu'il nous amena à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit. Alors, ayant été mis à mort en chair, je comprends, cela veut dire en tant qu'homme, il est devenu homme pour pouvoir mourir. Mais ma question concerne la deuxième partie, mais vivifié par l'Esprit. Alors, j'avais toujours compris que cela veut dire que c'est l'Esprit qui a une activité dans sa résurrection, dans la résurrection du Seigneur. Mais j'ai trouvé une autre pensée qui explique un peu différemment, qui dit que ce n'est que par l'Esprit que nous connaissons la position et l'état du Seigneur. Cette vérité qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, c'est l'Esprit de Dieu qui le communique. Alors, je ne sais pas, peut-être les deux sont vrais. Peut-être vous, les frères, ont un avis là-dessus, s'il y a plutôt l'accent sur un ou l'autre explication, l'une ou l'autre, ou encore une autre.
Je ne prétends pas répondre aux questions des jeunes frères. Mais je fais juste un commentaire peut-être supplémentaire sur cette expression. Vivifié par l'Esprit, effectivement, on peut remarquer qu'il n'est pas dit ressuscité. Et pourtant, il me semble que la pensée principale, peut-être il y en a d'autres, mais c'est quand même un peu celle-là. Ça fait allusion à la résurrection de Christ par l'Esprit, comme elle est aussi ressuscitée par le Père et par sa propre puissance. Mais pourquoi est-ce qu'il est insisté sur vivifié ? Je voudrais juste lire deux passages en rapport avec cette expression. Parce que ressusciter, c'est sortir de la mort, mais vivifier, c'est ce qu'il y a après. C'est la puissance de la vie qui est soulignée, comme le fait l'apôtre Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 11, non 13, chapitre 13, dans une parenthèse. Christ, lequel, verset 3 du chapitre 13, Christ, lequel n'est pas faible envers vous, donc il y a tout un contraste qui est fait entre la force et la faiblesse, lequel n'est pas faible envers vous, mais puissant au milieu de vous, entre la faiblesse et la puissance, et car même s'il a été crucifié en infirmité ou faiblesse, néanmoins, il vit par la puissance de Dieu. Donc il y a cette insistance qui est mise sur la condition actuelle de Christ, contraste avec sa vie sur la terre et sa mort en faiblesse, c'est que maintenant il vit par la puissance de Dieu. Je pense que cette expression vivifiée par l'Esprit met l'accent aussi sur cette puissance de vie qui est en lui et par laquelle il vit maintenant et auprès de Dieu et par la puissance de Dieu. Et puis aussi cette belle expression à la fin d'Apocalypse 1, quand le Seigneur lui-même dit à Jean, verset 17, « Ne crains point, moi je suis le premier et le dernier et le vivant. » C'est un de ses titres, il est le vivant. Pas seulement maintenant, d'ailleurs il l'était déjà avant, mais il est le vivant. Et il ajoute, « Et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Donc il y a ce côté de, non seulement quelque sorte ressuscité, mais vivifié pour être maintenant le vivre de cette vie au siècle des siècles, de vie caractérisée par sa puissance et son caractère éternel.
on arrive petit à petit à la fin, mais pas encore tout de suite. Le sujet était donc le rôle du Saint-Esprit en relation avec la vie du Seigneur Jésus sur la terre. On a donc compris que le rôle du Saint-Esprit n'était pas un rôle envers le Seigneur. Le rôle du Saint-Esprit, c'est pour nous faire montrer comment il agissait. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus, c'est l'Esprit de Christ. Il était fait ainsi, il était parfait, et le Saint-Esprit, quelque part vu extérieurement, qui vient sur lui ou quoi, ne lui apportait rien de spécial, il était déjà parfait. Mais je pense que tous ces passages, ils sont là, le Saint-Esprit a là un rôle pour nous montrer à nous que celui qui était là, le Fils de Dieu, il a été l'homme parfait. C'est pour nous montrer toute sa perfection en tant qu'homme. Et en cela, nous l'avons vu, il est un modèle pour nous aussi. Tous ces passages que nous voyons, le Seigneur Jésus qui est mené par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, tout cela nous concerne nous aussi. Et quand nous pensons que tous ces versets où nous voyons le Saint-Esprit agir à travers le Seigneur, n'est-ce pas merveilleux de voir que c'est ce même Saint-Esprit que nous avons en nous. Nous nous plaignons souvent de notre faiblesse, mais c'est un esprit de puissance que nous avons, et cela nous l'oublions trop souvent. L'année passée, c'était la direction du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. On aurait pu difficilement mettre la direction du Saint-Esprit dans la vie du Seigneur. C'était logique, c'était normal. Mais en effet, en relation avec la vie du Seigneur Jésus, ce rôle, c'est un rôle pour de témoin quelque part pour nous montrer ce qu'était le Seigneur dans ses perfections, dans sa manière d'agir. Et dans tous ces passages, on voit donc le Seigneur en tant qu'homme, on le voit dépendant du Seigneur. Et le dernier acte sur la terre où il est dépendant de l'Esprit, on le voit dans acte 1, avant d'être élevé, après avoir donné par l'Esprit Saint des ordres aux apôtres. C'est son dernier acte, on va dire, où on voit sa dépendance à l'Esprit Saint. Mais quand nous voyons dans Jean 16, que nous avons déjà évoqué, c'est lui qui va envoyer l'Esprit Saint sur la terre. On voit là que il va reprendre, on dirait, d'une certaine manière, c'est un sujet, les paroles sont des fois difficiles à exprimer, mais il va reprendre quelque part son autorité sur l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Jésus. Et dans Jean 16, nous l'avons déjà dit, donc c'est lui qui dit au verset 5, « Mais maintenant je m'en vais à celui qui m'a envoyé. » Et alors au verset 7, « Toutefois, je vous dis la vérité, vous êtes avantageux que moi je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, si je ne m'en vais, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Et alors il nous est dit, plus loin, au verset 13, « Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Et ainsi de suite. On voit donc là cette autorité qu'il a sur l'Esprit Saint. En tant qu'homme sur la terre, nous ne le voyons pas parce qu'il est là en tant qu'homme et en tant aussi que modèle pour nous. Mais ensuite, c'est lui qui va envoyer l'Esprit qui va nous parler du Seigneur. Et il est dit ici donc, il vous dira, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. voilà. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, entendu. On pourrait peut-être dire que ici, le Saint-Esprit nous a montré qui était le Seigneur Jésus. Et quel privilège de savoir que ce même Esprit, nous l'avons en nous, que nous puissions marcher toujours plus par l'Esprit et imiter cela, en cela, notre Seigneur.
Pourtant, l'action de l'Esprit pour nous, comme cela vient d'être dit en Jean 15 au verset 27-26, l'Esprit de vérité qui vient du Père, qui vient de Dieu lui-même, il rendra témoignage de moi. Ça a été dit déjà au chapitre 14, l'Esprit Saint, verset 26, vous enseignera toutes choses, vous rappellera les choses que je vous ai dites. Voilà son rôle, son action, son activité. Il rend témoignage de moi, pas de lui-même en fait. Il se met pas en avant le Saint-Esprit, je veux dire. Il nous attache à Christ. Et c'est ce qui a bien d'être lu au verset 13. Il ne parle pas de par lui-même. Et il me glorifiera. Son but, c'est de glorifier le Seigneur Jésus. C'est de parler de lui, c'est de rendre témoignage de lui. Et que nous puissions être à l'écoute de la voix de l'Esprit de Dieu qui nous parle d'une personne, de Christ lui-même. Il nous attache à lui. Et c'est ainsi de sa personne que nous pouvons être nourris, enseignés, fondés, parce que le Saint-Esprit parle de ce qu'il du Seigneur Jésus lui-même.
Michael a dit, il y avait deux montagnes, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces deux montagnes, une montagne des souffrances et une montagne de la gloire. C'était le témoignage de l'Esprit Saint à l'égard du Messie, à l'égard du Christ. Qu'ont retenu les disciples de ce message de l'Esprit Saint qui était dans toutes les Écritures? Ils ont retenu uniquement la gloire. Ils n'ont pas compris les souffrances. Pour entrer dans la compréhension justement de l'ensemble de la parole, il nous faut l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint avait rendu témoignage de Christ dans ses souffrances et dans sa gloire tout au long. Mais l'esprit humain est fait de telle façon qu'il n'avait retenu que la gloire. Sur ce sujet que nous avons vu aujourd'hui, prenons garde de ne pas laisser tout un côté de la vérité concernant justement le rôle de l'Esprit Saint dans la vie et dans la mort, dans la résurrection du Seigneur. Marc, je ne partage pas complètement la pensée que tu as eue en disant « Le Saint-Esprit ne fait que rendre témoignage dans la vie du Seigneur. » Je ne partage pas complètement cette pensée-là. Le Saint-Esprit était là pour la naissance du Seigneur, pour la conception du Seigneur. Il n'a pas simplement rendu témoignage de cela. Il était là, il agissait. Il agissait dans sa mort, comme on l'a vu. Il agissait dans sa résurrection aussi. Et c'est pour ça... Soyons très attentifs, les sujets que nous avons abordés aujourd'hui, il y en a effectivement sur la dernière réunion, c'est particulièrement, on sent notre limite, toute notre limite pour parler de ces choses. Mais faisons attention justement, nous avons besoin de l'Esprit-Saint et peut-être que nos pensées humaines peuvent nous empêcher d'entrer dans ce que l'Esprit-Saint veut nous communiquer de la personne. Il est dit dans Jean justement, il ne parlera pas de par lui-même. Il n'est pas dit, il ne parlera pas de lui-même, mais de par lui-même. Mais c'est l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Il y a à la fois la montagne de la souffrance et la montagne de la gloire. Il y a tous ces différents aspects de la vérité concernant la personne du Seigneur Jésus qui nous sont donnés dans la parole, que nous avons évoqués probablement avec beaucoup de faiblesse aujourd'hui, et que le Seigneur, justement, nous aide à... par rapport à ce qui a été exprimé, qui n'était peut-être pas complètement correct, à repasser ces choses, retenir ce qui est bon, et qui nous conduise justement, et que l'Esprit Saint, que nous avons reçu effectivement, que l'Esprit Saint nous conduise dans toute la vérité. Pas une partie, mais dans toute la vérité.